Bonjour Lucien Raffmage, nous allons réaliser ensemble le deuxième entretien pour la sortie de vos deux nouveaux livres. Je tiens dans la main gauche Contre Nuit, je tiens dans la main droite Une météorite nommée Désir. Tous les deux viennent de sortir en librairie. Je renvoie les auditrices, les auditeurs au premier entretien d'environ une heure que nous avions eu il y a 3 ans maintenant. Pour vos deux précédents livres, où vous y dites beaucoup de choses sur la désidération, notamment, et de votre travail avec l'artiste Smith. La désidération, ça tombe bien, je vais vous réinterroger dessus, puisque votre livre Contre Nuit, qui pourrait se lire comme aussi une introduction théorique à votre deuxième livre, Une météorite nommée Désir, qui pourrait en être, on va dire, le pendant fictionnel, sur le point de vue, enfin, d'un point de vue littéraire. Ce livre Contre Nuit s'ouvre par des extraits de textes « La désidération engendre le désir » du philosophe Jean-Luc Nancy. J'aimerais que nous parliez de ces extraits et de toujours ce terme « désidération » qui est là, présent, et qui ouvre ce livre Contre Nuit.
Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très, très honoré de participer à cet ensemble de voix qui constituent cette émission du Fictionnaire. C'est quelque chose qui est assez important, je pense, d'entendre les voix des personnes et d'entendre aussi la pensée telle qu'elle se décline dans des imaginaires. Et c'est vrai qu'on est au XXe siècle habité de beaucoup de voix qui ont accomplissent cette traversée qui nous amène non seulement à la philosophie, mais aussi à l'écriture de fiction et aussi à un travail, je crois, de décentrement. Ce dont témoigne Jean-Luc Nancy, c'est aussi de cette façon de pratiquer la philosophie et le rapport à l'expérience que représente donc le désastre du XXe siècle par rapport à nos représentations du monde et notre façon de sentir le monde. Le premier extrait vient de justement un livre qui s'appelle Le sens du monde, qui est un recueil de textes qu'il a mis ensemble, mais qui est bien la question de notre désorientation contemporaine. On s'est longtemps fié aux étoiles pour trouver une sorte de boussole, et au XXe siècle, il semble qu'on ait perdu le sens à la fois des étoiles, mais aussi le sens de la Terre. Et c'était ça que reflétait notre volonté, en tout cas notre lecture de la désidération. C'était pas de dire qu'il fallait retrouver en quelque sorte le sens des étoiles, car cela, on peut le retrouver dans le mouvement de la conquête spatiale et, ou dans le New Space contemporain, et c'était absolument pas ça, bien sûr, dont il était question dans la désidération, mais de réunir en fait la Terre et le ciel et différentes choses qui avaient été séparées au cours de la période moderne et qui devait être réagencé, ou en tout cas relié, remédié d'une nouvelle façon. Et c'était cet effort qui avait donc différentes dimensions, et qui n'était pas uniquement en fait une démarche artistique, mais une démarche qui se voulait indisciplinaire, comme on dit avec Smith, c'est-à-dire pas simplement une démarche qui conjugue différentes expériences, ou qui les traverse, mais qui est elle-même traversée, et qui est elle-même fait bouger pour chaque domaine du savoir quelque chose de commun et qui altère profondément notre façon de voir, de recevoir, de sentir le monde. Donc c'était quelque chose qui allait au-delà de la simple présentation d'une pensée, d'une théorie ou autre chose aussi qu'une esthétique. Et donc ça, c'était une démarche donc qu'on a commencé il y a déjà quelques années et qu'on a continué effectivement ensemble un bon moment. Et puis est arrivé 2020 et qui a mis un suspens, un arrêt de monde, comme on peut dire, à ce travail sur la désidération et notamment sur la question qui arrivait pour nous, de la question de la communauté, la question du politique. Et c'est des choses sur lesquelles Jean-Luc Nancy a été assez important, bien sûr, à bien des égards, et qui est aussi un grand défi de notre temps, c'est-à-dire que les entreprises, les pensées sur comment faire communauté, comment rassembler toutes ces initiatives écologiques, anthropologiques, qui visent à ce décentrement, un peu comme récemment je lisais le petit mémo sur la classe écologique, notamment écrit avec un des derniers textes de Bruno Latour. Il y a cette préoccupation de comment on amorce ces bifurcations de notre façon de voir le monde et d'agir dans le monde, de produire, de se relier. Donc c'est à cette question-là que, n'ayant pas l'opportunité de le prolonger directement en 2020, commencer une réflexion à long terme, et je pense qu'il y aura encore des prolongements dans les années à venir sur... qu'est-ce qu'on fait de cette politique du ciel, comment on fait cette politique de la terre et comment on les relie les deux ensemble et ne pas les séparer. Je crois que c'est un des aspects cruciaux et je crois que dans Contre-Nuit, il y avait cette idée de réactiver quelque chose de la politique, même si je ne me sentais pas légitime quelque part pour parler de l'ensemble de ces données-là. Puisqu'on a toujours l'impression d'être débordé par la question du politique, la question de l'engagement, la question des changements et de la manière, on va dire, une sorte de parole combinatoire qui nous dirait mais comment allez-vous réaliser une sorte de programme que serait la décidération? Je crois qu'il n'y a pas de programme, il y a une sorte d'ensemble de ramifications qu'on essaie de faire croître dans multiples directions. Et c'est, je crois, aussi ce qui explique la structure du livre, qui mêle différentes strates de temps, qui mêle différentes strates de types de discours, qui mêle des choses qui sont plus théoriques, des choses qui sont plus poétiques, des choses qui sont intimes, des choses qui sont plus génériques, en tout cas qui espèrent toucher une sorte de genre neutre et assimilable par le plus grand nombre d'espèces possibles ou d'entités. Donc je crois que tout ça s'inscrit dans un mouvement qui ne cesse de se répéter à la fois et de varier, voilà, en différence et répétition, pour essayer de créer dans l'objet même du livre, dans la contre-nuit, une sorte de mouvement vivant. Alors c'est peut-être une banalité de présenter les choses de cette manière, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire et qui m'est très cher, c'est-à-dire de ne pas faire un livre qui soit en fait tenu par cette unicité qui est présente par la forme du livre, qui est présente par la structure mentale du livre, et de faire quelque chose qui puisse rayonner et aller dans des directions multiples, et à cet égard, pas redonner forcément une boussole, comme souhaitait Bruno Latour, mais différentes directions, différentes possibles, et d'ouvrir ces possibles à travers le texte.
Alors, un des premiers gestes que vous effectuez, on pourrait le trouver dans ce texte qui s'appelle Des étoiles mineures, bien entendu. Connaissant votre penchant pour Antoine Volodine, j'ai immédiatement pensé aux anges mineurs. Votre sous-titre est fait exprès. Ce texte qu'on lit sous ce titre-là, Des étoiles mineures, il est très très clair sur la perte de regard vers l'espace, vers le ciel. Je vais vous lire quelques extraits. Les étoiles sont devenues en minorité dans notre expérience du monde, obsolescence du ciel. Notre être aux étoiles est diminué plus qu'à aucune autre époque de l'humanité. Et vous continuez ainsi. Alors que la pensée devrait être galactique, jamais les étoiles n'ont été moins réelles pour nous et de concert leur imaginaire plus absent. C'est-à-dire que vous êtes là véritablement très très clair. Or, vous venez de parler à deux reprises de Bruno Latour, notamment son dernier livre. Et on sait bien que Bruno Latour, à partir de son livre de 2017, Où atterrir, a souhaité aussi nous couper de l'espace, c'est-à-dire théoriser le terrestre, mais un terrestre où il n'y aurait pas d'extraterrestre, un terrestre où l'injonction serait regardez plutôt la Terre, plutôt la planète, on va dire, et essayons de nous intéresser à la Terre et à la planète plutôt que d'aller à nouveau encore regarder dans le ciel, dans l'espace. Et bien entendu, surtout, c'était contre des tentatives à la Elon Musk qui sont assez grossières de dire on va pouvoir y habiter, on va pouvoir fuir dans l'espace. Ça, c'est vraiment le truc le plus, on va dire, extrémiste et assez grossier et faux technologiquement. Et Bruno Latour a donné l'impression qu'il nous cherchait à nous couper de l'espace. Or là, vous êtes assez clair, et je suis en plein accord avec vous, et j'étais heureux de lire votre texte, parce que les étoiles, effectivement, ont disparu de notre regard.
Tout à fait, c'était une volonté au départ de donner un diagnostic assez clair, et notamment d'un paradoxe, c'est-à-dire que jamais on a mieux connu les étoiles, on en détecte tous les jours davantage des nébuleuses, des planètes, et pourtant jamais on en a moins connu les réalités. Si j'amène des gens face à des images de Mars, ils vont dire c'est Mars, sans aucun doute. Par contre, je les amène devant un ciel étoilé, je pense que la plupart ne saura pas distinguer Jupiter, par exemple, qui est quand même assez massive et présent quasiment même dans nos ciels pollués. Ils ne sauront pas distinguer Mars, ni les constellations au-delà des grandes constellations majeures. Et c'est pas un regret, je dis pas que tout le monde devrait connaître les étoiles, mais ça témoigne d'une sorte de disjonction entre l'expérience et le mental. Et c'est ça que je voulais souligner de prime abord. Et effectivement, cette séparation que Bruno Latour rejoue entre la Terre et le ciel me semble assez peu compréhensible. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un pas de côté vis-à-vis de ça et une volonté de raconter un autre récit, parce que c'est une des expériences les plus fondamentales que de se confronter à un ciel étoilé et d'être ému ou de sentir quelque chose qui va au-delà de la simple esthétique, qui a une sorte de vertige et aussi qui met en cause la pensée, puisque la pensée vient sûrement du vertige. Et il me semble que c'était extrêmement important de souligner ce fait et d'essayer de trouver d'autres façons de raconter, en fait, le rapport de ce qu'on considère comme une extériorité, un dehors absolu qui serait l'espace, et un terrestre qui serait une intimité, une chaleur, une proximité. Cette façon de découper le monde, là, effectivement, on est dans des sphères assez intellectuelles ou assez abstraites, philosophique, mais en fait ça a une conséquence en fait sur les façons en fait de percevoir les choses dans le monde. En fait, on a l'impression que la philosophie ne parle qu'aux philosophes, que l'astronomie ne parle qu'aux astronomes, et c'est ça bien qu'on voulait questionner dans Desideration. C'est pour ça que je disais que cet aspect indisciplinaire, c'était bien de faire éclater ces frontières-là des savoirs et dire que l'astronomie, ça concerne notre façon de vivre dans le monde. La philosophie, c'est de même, c'est pas un discours extérieur qui vient se plaquer, mais plutôt de reconnaître un certain nombre de devenirs, de processus, de façons de se rapporter effectivement à une expérience, d'où l'expression bien sûr des étoiles mineures qui est un clin d'œil à Volodin, mais aussi à Deleuze et Guattari, hein, avec cette question de la minorité et de la reconnaissance que même si les étoiles sont innombrables et sont en nombre majoritaire dans notre regard, eh bien elles sont en minorité dans notre façon de concevoir le monde, où notre rapport aux étoiles est devenu une pure extériorité, alors qu'elles sont intimement liées à notre histoire. Alors là, telle que la science nous l'a apporté comme façon de comprendre qu'on est constitué par des atomes qui datent du Big Bang et autres, certes, mais au-delà de ça, ce qui est ce grand mystère de la continuité et de la discontinuité, et qui, dans ce hiatus, produit, je crois, quelque chose d'assez intéressant qui est la pensée.
Parce que vous allez même plus loin, enfin, j'ai peut-être jamais trouvé quelque chose d'aussi clairement énoncé. Je vous lis. La nuit fabrique nos imaginaires. Et aujourd'hui, notre imaginaire du cosmos est un combustible qui prend feu. Nous-mêmes prenons feu. Enfin, là, vous êtes très très clair, Lucien Raffemage. On sait que vous parlez de la catastrophe climatique et écologique. On sait très clairement que vous parliez de cette nouvelle époque qui s'appelle l'Anthropocène. Et votre phrase d'après est très très claire. Hors sol, car aussi hors ciel. Là, véritablement, on sait très bien que Bruno Latour a beaucoup théorisé le hors sol et qu'il trouvait que le moderne était hors sol et que le terrestre, qu'il appelle de ses voeux, est celui qui doit justement retrouver le sol. Et comme il voulait nous couper de l'espace, vous avez cette formule. Et je ne l'ai trouvée nulle part formulée aussi clairement, parce que nous sommes plusieurs, je pense aussi à Ariel Kirou, par exemple, qui fait aussi ce reproche de Bruno Latour, de nous couper de l'espace. Et Ariel Kirou, il le théorise à partir, lui, de la science-fiction. Donc le corpus de la science-fiction, c'est ce qui lui permet de lire à nouveau frais Bruno Latour et de s'apercevoir effectivement que non, il ne faut pas nous couper de cet imaginaire spatial, que la science-fiction nous rapproche de cela. Or là, soudain, votre formule est voilà, la plus lapidaire, la plus concise, la plus explicite, hors sol, car aussi hors ciel. Et donc, si on veut retrouver le sol, eh bien, il nous faut retrouver le ciel.
Oui, et je crois beaucoup de choses convergentes dans notre analyse. Et c'est vrai que on pourrait même enfin appuyer sur les jeux de mots, mais je ne sais pas si c'est pertinent. Mais effectivement, le sol, c'est aussi, si on prend en latin, c'est le soleil. Donc en fait, on est aussi dépendant de l'énergie solaire. Enfin, c'est vrai que cette façon, en fait, de redécouper le monde sur cette opposition, je crois qu'il y avait beaucoup de philosophes, notamment, qui étaient des maîtres à penser pour Latour, comme Donna Haraway ou Isabel Stengers, qui soulignaient cet aspect un peu conflictuel qui avait toujours présent dans la pensée de Bruno Latour, cette nécessité un peu guerrière. Et c'est vrai que ces autres philosophes avaient une autre tradition qu'on retrouve chez Vinciane Després, qu'on retrouve chez Baptiste Morisot, qu'on retrouve dans cette idée de diplomatie, dans lequel on va avoir un autre rapport, en fait, là aussi au phénomène, par exemple, entre le visible et l'invisible, entre effectivement le terrestre et le céleste, et qui est beaucoup plus trouble, en fait. Ce n'est pas aussi tranché. Et c'est là où revient la question de la politique. C'est-à-dire que la politique demande des lignes de force et des oppositions, en fait, pour diriger l'action. Et c'est là où se pose la question de comment arriver à une politique de... Non, je ne vais pas dire une politique de la décidération, ce n'est pas en soi une politique, mais effectivement une politique à la hauteur, en fait, du monde dans lequel nous sommes, ce monde abîmé, ce monde dans lequel on n'arrive plus à regarder, en fait, le vivant et le non-vivant dans leur spécificité et dans leur continuité. Et c'est ça qui est en question, oui, assez profondément. Et puis je pense aussi au travail de Frédéric Néra, qui travaille sur l'aliénocène, qui est aussi assez critique de des notions dans lesquelles l'ailleurs ou le dehors est rejeté dans un cosmos infini, et d'essayer de le rapprocher de nous, en fait, de dire que le dehors, bien sûr, il est en nous autant qu'en dehors de nous. Et c'est vrai que c'est un travail de brouillage des frontières sur lequel on est de nombreux, en fait, à travailler. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a eu toujours une dimension collective à ces mouvements-là, qui fait que c'est compliqué de signer d'un nom d'auteur. D'ailleurs, un livre, je trouve, enfin, ça m'apparaît de plus en plus frappant. J'ai plutôt envie d'appartenir à des collectifs ou à des choses où on travaille en commun, parce que là aussi, si on veut mettre en avant une intelligence collective, de dire qu'on va travailler avec le non-humain, etc., pourquoi on s'attache toujours à cette figure de la subjectivité individuelle? Qu'est-ce qui ne va pas là aussi, même d'un point de vue de la politique de l'auteur, de sa représentation? Ce qui fait, bien sûr, la nécessité d'avoir une sorte de cheval de Troie, et quand même d'essayer de faire passer une mutation, et une mutation qui passe forcément par un stade intermédiaire où on commence à faire bouger les choses. Et je crois que j'essaye, en tout cas dans Contre Nuit, là aussi, de faire appel à plusieurs voix en moi, de plusieurs voix, là aussi, que ce soit dans les médiations qu'on fait autour de ces projets-là. Et je dois remercier les éditions Abruptes, qui font un travail exceptionnel, là aussi, pour mettre en scène numériquement pour donner accès au texte aussi gratuitement sur leur site et dans des versions à la fois donc numérique et dans des créations, hein, puisqu'il y a une création qui a été faite à partir de Contre-Nuit, qui est une autre façon aussi de rentrer dans le texte à travers une sorte de d'anneau de Saturne qui miroite dans le fond d'une nuit assez exceptionnelle qui est dans la nuit du réseau.
J'aimerais que vous parliez un petit peu de Frédéric Nerra, ce philosophe que vous veniez de citer. Un de ses derniers livres s'appelle Ange noir de l'histoire, Cosmos et technique de l'afrofuturisme. Ça fait déjà un certain temps qu'il tourne autour du sujet de l'afrofuturisme. J'aime beaucoup également les livres de Frédéric Nerra. Je renvoie les auditrices et les auditeurs au long entretien que j'avais eu avec lui pour une partie de son œuvre. C'est lui aussi qui a introduit le concept de planétaire, hein, qui le reprend du grand historien Dipesh Chakrabarty. C'est lui quand même un des premiers à l'avoir introduit en France, il me semble, le concept de planétaire, qui répond aussi et qui tente de résoudre on va dire, la contradiction qu'avait bien vu Bruno Latour entre le global et le local, en fait, et que le terme de planétaire est une des possibilités, du moins réflexives. Et vous avez parlé du site que mène Frédéric Nerra depuis de nombreuses années, et c'est vrai que là-dessus, il théorise beaucoup ce concept aliénocène. Ce n'est pas rien, c'est l'anthropocène, mais qui est relié, enfin, les questions d'anthropocène, qu'il le travaille beaucoup, qui est relié justement à l'ailleurs, à l'aliène, au grand autre. Je veux bien que vous nous parliez de Frédéric Nerra parce que dans votre livre Contre-Nuit, Lucien Raffmage, c'est aussi une somme d'auteurs qui sont convoqués avec vous. Bien entendu, vous parliez de la politique de l'auteur et à juste titre. Parce que, à l'âge de l'Anthropocène, effectivement, ça fait bien pâle figure, cet auteur individuel qui cherche toujours à inventer son concept et à le valoriser pour peut-être garder un brin de postérité. Vous convoquez énormément d'auteurs, justement, dans ce livre-là pour essayer de faire commun, de faire communauté. Vous n'avancez pas seul.
Non, tout à fait. C'est une joie de retrouver d'autres pensées et d'essayer de s'ajointer. Oui, même si on est encore assez distants les uns les autres et on ne sait pas encore comment se rapprocher, on est un peu comme des étoiles qui tentons de faire une constellation. C'est vrai que la pensée de Frédéric Nerra me touche beaucoup, à la fois dans la façon dont il a de nous ramener à l'afrofuturisme, qui nous dit un rapport à la perte. Là aussi, c'est l'histoire de la traite négrière et de la façon dont on hérite de cette histoire, des ruines de l'histoire, qui est aussi l'histoire du capitalisme. Et ce que dit Frédéric Nerra, c'est qu'ils sont en avance, toute cette communauté afro-américaine et africaine, puisqu'ils ont eu à hériter de cet impossible qui est d'être amené à être sans histoire et à vivre dans les décombres du capitalisme et devoir s'inventer de s'inventer en défaisant l'espace-temps et ce qui a donné avec Sun Ra l'afrofuturisme et qui ce côté fou et ce côté prometteur et c'est ce qui est beau je trouve dans le terme d'aliénocène de même que dans le Cthulucène de Naraouel, c'est de dire que c'est pas une tentative, il y en a tellement aujourd'hui, de définir un temps qui est le nôtre, qui est l'anthropocène. Je pense que on pourra toujours dire c'est le capitalocène, c'est le plantationocène, etc. Mais là, c'est de se projeter, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir une autre séquence. C'est ça que. Désolé.
Après cette interruption venue d'ailleurs, nous parlions donc de Frédéric Nerra que vous utilisez dans votre livre.
Je ne sais pas si je l'utilise, je le convoque, j'essaye de tisser une sorte de lien avec cette aliénocène qui est aussi là, ce que faisait remarquer une de ses amies, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'aliénocène, et on peut entendre dire aussi l'absence de lien. Et en tout cas, dans cette pensée, il y a beaucoup de choses qui me touchent, notamment un renversement, des renversements effectivement de cette pensée de la Terre vers son altérité et son altération depuis notre espace Terre. la façon de résister en fait à un devenir, à une dématérialisation, à ce qu'on aura pu appeler le hors-sol, par la question de la mémoire, la question de l'impossible et la façon dont il convoque aussi Walter Benjamin, dont je parle aussi dans mon travail, en tout cas pas dans mon travail, dans ce livre de Contre-Nuit, pour penser la rupture qui se passe au XXe siècle à travers le désastre de la Première Guerre mondiale et du traumatisme, et la façon dont, en fait, il y a toute une expérience du monde qui est transformée et qui se peine à dire, et qui aussi, l'histoire de l'impossible des révolutions, et la question de l'ange de l'histoire, dont il parlait dans son livre, c'est aussi cette figure donc très émouvante de Benjamin, qui raconte cet ange qui est tourné vers le passé et qui est poussé à travers les ruines vers l'avenir, qui est une façon de renverser en fait les temporalités, puisque le messianique ne vient pas d'une sorte de futur, d'une parousie, d'une venue d'un messie qui ne viendra jamais, ou après tout, après toute la fin des temps, mais plutôt d'un passé, un passé qui est celui de la ruine. Et c'est cette façon d'être tourné vers cette histoire-là, cette histoire passée, cette histoire de la Terre, cette histoire qui est aussi en fait l'histoire du cosmos que nous apprend Frédéric Nera. C'est un mouvement qui est très intéressant, je trouve, philosophiquement, mais là aussi, quand on dit philosophique, on a l'impression qu'on touche à de la spéculation. Il me semble que c'est au contraire, c'est les histoires des peuples, c'est l'histoire des individus là qui est convoquée. Et quand on parle de la mémoire de la traite, on voit très concrètement qu'il s'agit de trajectoires individuelles et aussi de trajectoires collectives qu'il faut réinscrire dans notre façon de penser. Donc c'est tous ces aspects-là qui me rendent proche de cette pensée de l'aliénocène.
Alors votre livre Contre Nuit convoque aussi la poésie. On peut le lire aussi, presque comme un livre de poésie contemporaine. En tout cas, c'est une lecture possible, c'est une lecture aussi que j'ai faite. Il y a comme un livre de poésie contemporaine. Et parce que en fait, vous écrivez très clairement que la nuit est devenue poétique au moment où l'on a perdu la nuit. Les étoiles sont devenues poétiques au moment où l'on a perdu les étoiles. On a multiplié l'image par l'absence, écrivez-vous.
Tout à fait, puisque c'était aussi une des volontés en faisant ce livre, de raconter. Alors, sous différentes formes, sous manière de fiction, sous manière de poème, d'épopée, la façon dont on s'est raconté la nuit, dont on a vécu le temps de la nuit. Et c'est assez paradoxal, là encore, que la nuit apparaisse de façon si présente, dans le mouvement romantique, je pense, comme une sorte de repli, au moment même où, avec l'apparition des éclairages, avec l'apparition, la croissance accélérée des villes, le rythme aussi, bien sûr, du travail lié à la révolution industrielle, vont nous couper de ce temps de la nuit, qui va devenir aussi un espace de lutte, de révolution. On peut penser à la nuit des prolétaires de Rancière. Et c'est assez intéressant de voir comment la nuit est réinvestie dans son aspect d'image, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus présente que comme une métaphore. Elle nous sert comme façon d'exprimer une absence. C'est ça, je crois, que désigne la métaphore. Et j'étais assez marqué, en effet, de ce parcours de l'image de la nuit au 19e et au 20e siècle, et jusqu'au 21e siècle, où l'expérience de la nuit est tout à fait absente, alors qu'elle subsiste comme pure toile de fond, comme image, mais plus du tout comme expérience. Et donc, c'était quelque chose que j'ai essayé d'approfondir, hein, et c'est pour ça que il y a eu Jean-Luc Nancy, il y a eu Walter Benjamin, et puis la poésie, pour moi, c'est la façon de se reconnecter au sensible. C'est une façon de vivre, et une façon de mourir, sûrement. En tout cas, c'est une façon de... c'est pas une façon d'exprimer des conventions ou là aussi de faire de l'esthétique, mais profondément, en fait, une manière d'amener les gens à percevoir, à vivre différemment. Je ne conçois pas, et ça, pour le coup, on peut le dire que c'est quand même une dimension existentielle qui se remarque depuis la période, on va dire, précisément du romantisme, qui a eu quand même ce mérite-là de remettre au centre la façon d'habiter le monde à travers les mots, et que les mots nous disent et disent notre être au monde, qu'on va retrouver ensuite dans le travail sur l'anthropologie, qu'on va retrouver dans le travail sur l'ethnologie, la façon de comprendre et de sauver les langues est tout aussi important que effectivement les façons politiques ou économiques de se préoccuper de l'état du monde, et que les deux ne sont pas opposés. Et ça aussi, on peut le devoir au grand poète, philosophe Édouard Glissant, qui n'a cessé de mettre en avant que la poétique du monde, c'est pas un délire de poète, mais au contraire une préoccupation de l'imaginaire sans laquelle tout le reste s'effondre, et que en fait c'est une façon concrète d'accomplir la politique que de faire de la poésie. Et je crois que on retrouve ça dans différents peuples, dans différentes façons dont on essaye de sauver certaines langues, d'avoir des langues menacées qu'on essaye de fixer et de promouvoir avec le monde et les imaginaires qui vont avec. Voilà. Donc c'est effectivement une histoire de la nuit qui se raconte dans ces poèmes, et j'espère, là encore, offrir autre chose qu'une. Là aussi, parce qu'on a des conceptions assez souvent assez restreintes de la poésie comme un exercice gratuit, en fait, de langage gratuit. Et là, je crois que c'est à la fois la chose la plus libre, et en ça, effectivement, là, on peut retrouver l'idée de gratuité, mais qui est aussi la chose la plus engagée du monde. Et j'essaye de me confier à cette exigence de la poésie dans mon livre, dans tous les livres que je fais.
Alors j'aimerais maintenant que nous parlions de votre livre Une météorite nommée Désir, et nous reviendrons après en conclusion à Contre-nuit, mais voilà, j'aimerais que nous, parce que ces deux livres fonctionnent ensemble, ils sortent ensemble, et lisant les deux, j'ai pensé que Contre-nuit était le pendant théorique à Une météorite nommée Désir, qui en serait l'incarnation sous la forme de la fiction littéraire. Une météorite nommée Désir et se lit comme un roman, en tout cas c'est une fiction littéraire incarnée par une narratrice. Et j'aimerais que nous abordions ce livre-là, non pas pour exemplifier tout ce que vous venez de dire, Lucien Raffmage, parce que ça serait véritablement mal lire Une météorite nommée Désir, qui est le texte fictionnel. Mais c'est une pure fiction, qui se lit comme telle. Et j'aimerais, non pas qu'on en fasse un exemple, mais plutôt qu'on essaye de comprendre quel est son élan, quelle est la volonté de ce texte en tant qu'objet propre. Alors, du coup, j'aimerais que nous parlions peut-être d'abord de la narratrice. Qui est-elle et que lui arrive-t-il dès le début?
Oui. Alors, c'est toujours compliqué de raconter une histoire qui se raconte elle-même. Cette narratrice n'a pas de nom, elle est une sorte de dénonciation et qui est une prise de contact avec un monde qui est contemporain, qui est à la fois le nôtre et qui, on le sent, n'est pas tout à fait le nôtre. En tout cas, il y a des référents qui sont glissants et qui nous amènent dans une sorte de flottement sur les référentiels, et ça c'est quelque chose qui m'importe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de référent de lieu, on n'a pas de référent de temps, on sait que elle a un téléphone portable, un frigidaire, bon, elle a des choses qui sont des objets qui nous connectent, qui a une expérience qui en même temps pourrait être transposée, je pense, dans beaucoup de lieux, et c'est cet aspect indistinct de la modernité que j'ai voulu saisir, et notamment ce rapport nihiliste au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeurs pour nous orienter, ce qu'on disait précédemment, bien sûr. Et cette narratrice est perdue, en fait, dans son existence. C'est quelqu'un qui est très jeune, qui ne sait pas comment réaliser ses rêves, qui voudrait être scénariste, qui voudrait réaliser des films, et qui se fait beaucoup de films, en fait, dans sa tête, qui ne cesse de fictionner en tous sens, qui ne cesse de produire des récits, et qui n'arrive pas à les matérialiser. Et toute l'histoire du livre est de savoir comment elle va pouvoir faire de ce qu'on considère aujourd'hui comme de la fiction, donc quelque chose d'inoffensif, quelque chose de réel, quelque chose qui nous transforme, un itinéraire. Il y a quelque chose d'assez initiatique, c'est vrai, dans ce processus, je crois. En tout cas, je l'ai voulu comme ça, de façon peut-être parfois un peu caricaturale, ou en tout cas en reprenant les codes de l'initiation, du mouvement, effectivement, qui conduit cette narratrice, qui tente d'être cynique et d'être détaché du monde, de son rapport au monde, et dont on sent tout de même l'intense sensibilité qui va l'amener jusqu'à la crise qui l'a saisie donc dans ce week-end d'été entre deux boulots, et où elle va, à la suite de coïncidences qu'elle va choisir d'interpréter d'une certaine manière, être amenée à une sorte de révélation qui n'en est pas une, en quelque sorte, qui est, alors là, je suis d'accord, peut-être la révélation de la désidération en dernier lieu, qui est un final très, très apaisé, et je trouve qu'on commence très fort sur des scènes assez justement vitaminées, on va dire, survitaminées, qui représentent l'ensemble de notre situation pour aller vers un point qui. Et j'espère hein, une ouverture des perspectives. Là, c'est bien ce que j'ai tenté de faire avec cette narratrice dont on suit l'esprit, puisqu'on est vraiment comme à l'intérieur de sa tête, dans son flux de pensée.
Elle reçoit un SMS. J'aimerais que nous parlions de ce SMS et qu'on parle de cette suite de SMS, de l'effet que ça peut produire.
Oui. Alors, c'est très, très, très intéressant que nos objets nous parlent, en fait, nous parlent en permanence. Et là, en fait, par la fiction, on s'en rend compte. Mais c'est quelque chose qui est assez important. Il y avait, il y a quelque temps, un livre sur les machines insurrectionnelles, qui est un texte qui m'avait assez marqué et que j'essaye de faire.
De dominer, enfin, on peut en parler clairement, hein. C'est donc un texte, enfin le dernier livre de Dominique Lestel, illustré par le BDaste Kilofer, qui est sorti, il me semble, chez Fayard. Je renvoie aussi aux interviews, plusieurs interviews que j'ai eues avec Dominique Lestel, qui est un de nos grands philosophes, qui s'est intéressé à la manière de Vinciane Després, enfin comme Vinciane Després, ils sont contemporains l'un et l'autre, ils ont tous les deux bossé avec Bruno Latour, puisqu'il me semble que très très tôt, Dominique Lestel a travaillé avec Bruno Latour, je crois même qu'il a fait sa thèse avec Bruno Latour. Je ne suis pas sûr, mais voilà, je sais en tout cas qu'ils ont été très proches, en tout cas au tout début, et Bruno Latour a été dans le jury de thèse de Vinciane Després. Or, tous les deux, ce sont nos deux philosophes qui sont des grands représentants d'une, on va dire, de réenvisager, de reconceptualiser cette discipline qui s'appelle l'éthologie, donc la science du comportement du animal. Et tous les deux ont véritablement complètement repensé et aidé les éthologues, donc les scientifiques, à repenser le vivant. Je pense au grand livre qui date à peu près de 2000 de Dominique Lestel sur les origines animales de la culture, où du coup, il l'expliquait très très clairement, avec thèse à l'appui, qu'effectivement, il y a des cultures animales et que c'est indéniable. Donc, il a fait le même parcours que Vinciane Després. Et donc, dans son livre que vous citiez, Lucien Raffmage, les machines insurrectionnelles, effectivement, là, il prend à bras le corps aussi toute une pensée, on va dire, issue du transhumanisme, en tout cas, nos technosciences.
Plus simplement, c'est vrai que, voilà, on s'imagine toujours que ce sont des choses très lointaine. Je crois que c'est des choses très quotidiennes et très, très concrètes dans notre façon de vivre et d'expérimenter le monde. Ce rapport au téléphone portable, et en fait, on a des interactions, en fait, des interactions profondes, comme on peut avoir avec d'autres d'autres entités. Et je crois que c'était important de le mettre en scène. C'est-à-dire que là, elle fait une rencontre, ou en tout cas, elle espère une rencontre avec l'entité qui est désignée par le SMS, puisque le SMS lui dit qu'elle va rencontrer une météorite. Donc, il y a une météorite qui va, en tout cas, un astéroïde qui va tomber sur Terre et amener la fin de cette Terre. Cet argument qui est assez simple et qui est pas pris au sérieux par le personnage, qui s'en moque de façon assez distante au départ, va devenir une obsession et va se caractériser dans une sorte d'attente de quelque chose qui ne viendra jamais. C'est-à-dire, c'est l'attente d'une rencontre avec un tout autre, avec un ailleurs qui est incarné par cet astéroïde. Et qui, même si c'est un message publicitaire qui veut l'appeler à répondre, on voit que derrière, enfin on peut sentir que derrière, il y a la question dont la façon dont on fait monde avec ses ailleurs, et comment on fait monde avec ses objets, et comment ils nous sollicitent, comment on entretient parfois des relations avec des objets qui sont aussi profondes qu'avec, même plus profondes qu'avec des animaux ou des plantes, ou avec des choses vivantes environnantes. Et là, ça repose de ce fait nos frontières, nos barrières. Et ce que je voulais, c'est de le faire sentir sans le conceptualiser comme je le fais maintenant, c'est-à-dire de le faire sentir dans la fiction. Et c'est vrai que c'est merveilleux de s'en rendre compte dans un livre, dans un roman, où on est complètement immergé dans le personnage, et de se dire que oui, en fait, on est habité par ces voix, ces voix qui sont impersonnelles, qui sont générées automatiquement, qui ne sont pas adressées à soi, et que ce langage qui est impersonnel, que l'on pratique, que je pratique actuellement, dit quelque chose du plus personnel, du plus intime, que le plus extérieur et le plus intérieur communiquent. Donc tous ces mouvements-là, ils se mettent progressivement en place, en même temps que le personnage se prête au jeu, en fait, de ces messages qu'elle reçoit par SMS, puisque au début, ce sont des messages assez répétitifs. Et puis, on a l'impression que la météorite lui parle, en tout cas, que par SMS, elle a des sortes d'ordres. Là, on pourrait se dire, effectivement, que le livre pourrait passer dans la catégorie de sorte de roman psychologique, ou une espèce de défaillance mentale ou de projection. A priori, c'est pas mon rôle de trancher sur ce qui se passe exactement, mais plutôt d'attirer l'attention sur voilà toutes les sortes de décalages qui se mettent progressivement en place et qui l'amènent à se décaler par rapport à sa situation initiale, cette indifférence en fait au monde. Et là encore, pour reprendre effectivement ce qu'on disait, c'est dire que le cosmos est sans cesse appelé dans le texte comme image. Elle ne cesse de faire des fictions où l'espace est présent de façon la plus science-fictionnesque, le plus décor en fait, hein, de carton-pâte, et la réalité en fait de l'espace, l'atmosphère, le soleil, les étoiles, sont au départ comme effectivement, comme un arrière-fond, comme un arrière-monde, une croyance lointaine, mais auquel on ne croit plus. Et progressivement, j'espère, ça se matérialise et ça devient une réalité pour elle, sensuellement, concrètement, affectivement, à l'occasion aussi de cette crise.
Le premier SMS qu'elle reçoit est quand même très direct. Il dit ceci: La Terre va disparaître. Je suis un astéroïde qui se dirige actuellement vers votre planète. Voilà, c'est le premier SMS qu'elle a reçu. C'est le début de votre livre de fiction. Si bien que c'est l'appel de l'espace, hein, bien entendu. Et l'espace va commencer à entrer dans sa vie. Vous écrivez même à un moment donné, elle a une météorite dans la vie. C'est-à-dire que tout ce dont on s'est parlé à propos de contre-nuit, là, vous lui donnez une efficace. Vous le dotez d'une efficace. C'est-à-dire que cette narratrice, elle fait de l'effiction. C'est pas une soucoupe volante qui vient vers elle, c'est pas les extraterrestres soudain qui débarquent, et là, du coup, il y aurait un processus véritablement d'effiction. C'est pas un extraterrestre, mais c'est le même processus, en fait. C'est une astéroïde. Enfin, un astéroïde. Mais en tout cas, est-ce un vrai astéroïde? C'est toujours le problème qu'il y a dans le phénomène des soucoupes volantes. C'est-à-dire que si on pose la question du réel, on rate le phénomène. C'est pas la question du réel qui est intéressant. C'est la possibilité de l'efficace du phénomène. Et là, l'efficace du phénomène, c'est quoi? C'est qu'elle reçoit des SMS, qu'on peut, vous avez parlé de SMS publicitaire, effectivement, c'est une interprétation qu'on peut en faire, assez logique. Mais néanmoins, ce SMS, son premier, c'est « La Terre va disparaître, je suis un astéroïde qui se dirige actuellement vers votre planète ». Enfin, quelle drôle de publicité, c'est-à-dire qu'on est immédiatement dans un film catastrophe. On pense, bien entendu, et vous le citez à Don't Look Up, vous citez Don't Look Up en quatrième de couverture pour dire voilà dans quoi s'inscrit ce roman. Bien entendu, on y pense. Mais là, il y a de l'efficace qui arrive dans sa vie. Quel appel de l'espace qu'elle a. Elle a vraiment une météorite dans la vie.
Oui. Oui, c'est la question de l'appel est assez intéressante et comment répondre à ce qui est sans réponse. Moi, c'était quelque chose qui me touchait et c'est vrai que les chapitres sont aussi ponctués de sortes de réponses qu'elle tente de faire, mais qui sont des réponses auxquelles il n'y a pas de conversation possible. Et comment converser avec ce qui ne peut pas répondre? C'est une question qu'on pourrait poser aux extraterrestres, c'est une question qu'on pourrait poser aux fantômes, à de différentes entités, avec lesquels, en fait, la communication n'est pas possible. Je pense souvent, bien sûr, au film de Tarkovsky, Solaris. Comment communiquer avec l'incommunicable? Comment avoir la mémoire de l'impossible? Bref, il y a un certain nombre de mécanismes, c'est vrai, qui sont en place, et il y a tout à fait une sorte de rencontre impossible avec cette météorite qu'elle intériorise ou qui l'amène à déplacer sa façon de comprendre ce qui se passe avec ses messages. Et c'est vrai que c'est à la fois surprenant et je crois que le but, elle le perd assez rapidement et toute la question est de savoir est-ce qu'on accepte cette confusion, le fait de ne pas savoir si ce message c'était vraiment un message venu d'ailleurs ou si c'était simplement une arnaque pour la faire envoyer des messages à un numéro surtaxé. Et elle va se confier à travers le mécanisme de la fiction, donc à travers au départ le fait de répondre, lui envoyer des messages où elle raconte des petites bribes de scénarios qu'elle invente en permanence. Et ça va déclencher en fait le jeu. Et je crois que ce jeu, c'est aussi la distance, hein, c'est l'écart, le hiatus, qui est tout à fait important pour là aussi faire sortir de nos cadres de pensée, de savoir, et de créer effectivement une fiction, une hétérologie, une façon hétérodoxe de comprendre. Et ce qui m'intéressait, c'est de le faire avec un personnage qui est tout à fait un personnage simple. C'est pas quelqu'un, c'est pas un intellectuel, c'est pas une philosophe ou une éthologue, etc. C'est quelqu'un qui va devoir, parce qu'elle a reçu un SMS durant son été où elle enchaîne des petits boulots, se mettre à être en contact avec une météorite et l'intégrer à sa vie. Et comment on vit comme ça?
Oui, c'est-à-dire qu'à la manière des secoues volantes ou des fantômes, le phénomène est démocratique. C'est-à-dire qu'il tombe sur n'importe qui, à la différence par exemple du chaman. Le chaman est instruit, le chaman est un processus. Le phénomène des secoues volantes ou des fantômes, par exemple, si on prend je pense au grand livre là que vient de sortir l'anthropologue Grégory Delaplace, que j'ai intérieur. Enfin voilà, je renvoie aussi à l'interview que j'ai eue avec lui. Effectivement, le fantôme est un phénomène aussi de mode d'apparition, disparition, qui est assez démocratique. Ça arrive comme ça, ça peut arriver à n'importe qui, pour peu que les conditions soient requises. Et là, c'est ce qui lui arrive. Sauf qu'on s'attend pas. Enfin, c'est là où votre fiction est originale, c'est-à-dire que ceci n'a jamais été décrit, en tout cas, voilà, dans ce qu'on appelle les sciences parapsychiques, par exemple, si on pense aux travaux de Bertrand Meust, voilà, ou des anthropologues. Bon, ceci, en tout cas, n'est pas un mode d'apparition commun, en tout cas. Et ce qui moi m'a captivé dans votre livre Une météorite nommée Désir, c'est que vous faites du smartphone un objet rencontrologique. Et là, par contre, je trouve que c'est un retournement parce que moi, je considère plutôt que le smartphone est un objet très anthropisé, c'est-à-dire qu'il est humano-centré, il nous centre sur l'humain. Enfin, on a beau regarder des images de chats, on ne va pas faire rencontre avec un chat en regardant notre smartphone. Notre smartphone n'est absolument pas connecté avec nos animaux domestiques, il n'est absolument pas connecté au vivant. Ce n'est absolument pas un moyen rencontrologique, en tout cas pour pouvoir rencontrer du vivant. Du tout, il est terriblement anthropocentré. Or, curieusement, par un renversement, vous faites du smartphone un objet complètement rencontrologique. C'est-à-dire que là, elle va vivre une effiction par ce message publicitaire qui la connecte avec l'espace et un astéroïde.
Oui, tout à fait. C'était, alors, bien sûr, le téléphone portable est vraiment l'objet iconique, le monolithe de notre époque. Donc c'était la question, là aussi, de déjouer un certain nombre d'attendus, que ce soit sur le récit de science-fiction ou que ce soit sur la dénonciation du monde moderne et de cette façon de miner des ressources rares pour produire des téléphones, etc. Et à côté, effectivement, de cette préoccupation qu'il faut avoir sur la façon de gérer l'obsolescence programmée des téléphones et autres, de penser la manière dont, en fait, ce monde moderne, c'est ce monde moderne qu'on doit faire bouger, qu'on doit faire muter à partir de notre situation. C'est quelque chose que j'ai assez à cœur, c'est-à-dire de ne pas me placer dans un ailleurs utopique qui serait tout autre, et en fait de voir comment on accomplit ces petits mouvements de côté qui nous amènent sûrement ensuite à rencontrer effectivement une dimension qui nous conduira à changer de façon de produire, une façon d'agir dans le monde. Et le téléphone portable, oui, c'est devenu tout à fait un prolongement exosomatique, comme disait Bernard Stiegler. Et il me semble assez intéressant de voir cette exosomatisation comme quelque chose qui nous rapporte un ailleurs aussi qui nous fait retour et qui devient intégré. Il y a un moment, le personnage, enfin, la narratrice, veut se faire intégrer son téléphone portable dans sa chair, comme dans un sort de Cronenberg étrange. Et on voit que là, il y a une résistance, en fait, et de voir comment cette façon de penser, quelque part dans l'hybridation, est peut-être pas la bonne, parce qu'en fait, c'est pas là que se trouve la rencontre, en fait. C'est pas dans ce type-là de transformation, c'est dans une transformation qui est plus complexe et qui a plus de dimensions, en fait, et qui est beaucoup plus simple quelque part, et j'espère que le texte montre que voilà, c'est tous ces chemins qui sont des façons dont on a de concevoir les transformations, la politique, les façons d'être au monde peuvent être changées assez simplement, que voilà, on n'échappera pas à la crise, mais qu'il y a quelque chose qui peut arriver après, que cet événement, eh bien, il faut pouvoir le penser. Et j'essaye de le faire avec ce livre.
Alors, j'aimerais que vous continuiez là-dessus, parce que vous ne nous en dites pas encore assez, Lucien Raffma. J'aimerais que vous parliez jusqu'au bout du processus à l'œuvre chez la narratrice. Qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que c'est là où on va vraiment entrer au cœur de vous, ce que vous voulez faire avec ce type de fiction, parce qu'on est toujours aussi dans qu'est-ce que ça fait la fiction, et après on va revenir à Contre-Nuit, à ce livre du coup, qu'est-ce que ça produit la fiction en fait, et quel processus à l'œuvre chez la narratrice jusqu'à son terme.
Paradoxalement, c'est un peu difficile pour moi de le caractériser, parce que j'ai envie de le laisser en partie aux lectrices et aux lecteurs. Si je voulais résumer, bien sûr, je pourrais dire que c'est une façon d'intégrer le cosmos et la question de la décidération en nous. C'était pour ça que aussi j'avais pris l'analogie de la nausée de Sartre, où la notion de contingence est en filigrane et se marque dans l'expérience et dans le corps d'Antoine Roquentin. Là, il y a une sorte de processus de renversement, oui, je crois, d'un certain nombre de données, comme je disais tout à l'heure, de façon de vivre la désorientation qui est celui d'un monde ravagé, de celui d'un monde détruit, d'un monde abîmé, d'un monde technologisé, d'un monde commercial, d'un monde capitalocène, d'un monde qui a oublié le monde en fait, et l'expérience dans ses variétés, mais dans la façon d'envisager toutes les dimensions des entités qui nous peuplent et qui peuplent l'univers. Et donc voilà, c'est un récit qui, j'espère, montre ce foisonnement-là et qui conduit vers cette destinée finale, qui est une sorte de, là aussi, oui, de révélation à l'envers, en quelque sorte. C'est pas une révélation, non pas qu'elle soit négative, mais je crois qu'elle dit quelque chose de sans espoir, mais qui est en fait une ouverture. En fait, une fois qu'on a renoncé à tout espoir, il y a une sorte de aussi qui est quelque chose qui n'est plus de la mélancolie, mais qui est lors du renouveau des possibles. Donc j'espère que ça dessine ce mouvement là ce texte.
Pour conclure, on va revenir à Contre-Nuit et à cette phrase, et j'aimerais vous faire parler dessus, parce qu'il me semble qu'elle concerne très directement une météorite nommée Désir et l'usage que vous faites du smartphone. Ça va être un peu théorique, mais je trouve cette phrase très belle. Le monde est animé de fiction. Je pense que nous en convenons tous les deux. Mais c'est ce qu'il y a entre parenthèses qui va m'intéresser. Le monde est animé de fiction, entre parenthèses, animisme sans Dieu, mais fétichisme bien réel. Fétichisme, F-A-I-T, tel que l'emploi Bruno Latour dans « Sur le culte du dieu, des dieux fétiches ». Et vous écrivez en note de bas de page de Marx à Latour, du fétichisme de la marchandise, donc de Marx bien entendu, au fétiche, F-A-I-T, c'est-à-dire ce néologisme inventé par Bruno Latour quand il a étudié dans le centre d'ethnopsychiatrie Georges de Vereux, quand il a étudié auprès de Toby Nathan au milieu des années 90 sur l'injonction d'Isabelle Stenger, c'est qu'il a ramené de là-bas, inventé ce concept de fétiche, c'est-à-dire qui rassemble à la fois le fétiche, tel que nous pouvons en convenir, et le fait, F-A-I-T, le fait scientifique. Parce que si le monde est animé de fiction, entre parenthèses, animisme sans Dieu, on peut en convenir, mais fétichisme bien réel, F-A-I-T, avec ce concept de Bruno Latour, on comprend que il peut s'agir de votre tentative de fiction littéraire avec une météorite nommée Désir. J'aimerais que terminions là-dessus.
Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est... On peut faire toute une mythologie sur le smartphone, mais quelque chose qui est à la fois créé par l'homme et auquel on prête des effectivement qualités d'un compagnon, une espèce particulière, et dans lequel on se confie beaucoup, à quel effectivement nos existences semblent se résumer aux interactions qu'on a avec cet objet. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de, pour moi, de réflexion que j'ai tente de faire depuis un certain temps sur la question de la mutation, enfin de l'évolution peut-être, je ne sais pas comment qualifier ça, de ce que Philippe de Scola appelait le naturalisme, la position ontologique des occidentaux modernes par rapport à la dimension de l'animisme, et notamment comment on peut sortir en fait, pas simplement en disant on va ramener notre monde à voilà, que dans chaque arbre il y a une dryade et que de cette façon on va mieux comprendre et respecter l'entièreté des êtres et des choses, mais comment en fait sans renier l'aspect de science, de ce qu'on a appris, les faits qui sont toujours des interprétations et des fictions bien évidemment, comment on fabrique un autre monde. Et donc c'est vrai que la question de ce rapport au téléphone est effectivement un rapport au fétiche quelque part, auquel on attend des qualités qui nous qui nous donne à intercéder avec des puissances autres. Et c'est vrai que le rapport au message dans le SMS est sûrement cette dimension-là aussi. C'est une dimension presque mystique qui se donne. Une mystique qui s'ignore elle-même. Et c'est aussi le processus du livre que d'essayer de révéler ce rapport, en fait, secret ou discret plutôt. Je sais pas ici, il faut parler de sacré, mais en tout cas ou à la question de la religion, et en tout cas d'une dimension qui a été rejetée, en tout cas comme une sorte de dimension archaïque, et qui ne cesse de revenir, comme s'il y avait un refoulé, hein, et une puissance du refoulé qui s'accomplissait de façon encore plus violente qu'on le nie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de Derrida, dans sa philosophie de la ontologie avec un H. Et ce qui est assez intéressant, oui, c'est comment essayer de penser un autre cadre ontologique mixte. Et je crois que dans le dernier livre de Philippe Descola, qui est sur la question des formes, la question de l'art et des cultures, il y a aussi cette évolution entre les quatre grandes ontologies qu'il a formées, de voir en fait qu'il y a des modèles mixtes, des choses un peu plus frontières dans lesquelles il y a des passages, il y a des échanges. Et je crois que c'est ça qu'on doit essayer d'inventer de nouvelles formes et d'inventer de nouveaux cadres et de nouvelles fictions qui permettent de s'en rendre, oui, de s'en rendre compte et d'ouvrir. Alors, ce qu'on ne peut pas exactement projeter de ce que sera cette nouvelle façon de se relier au monde, qui ne soit plus le naturalisme qui coupe entre sujet et objet, nature et culture, et tout un nombre de partages. Mais je crois qu'on doit s'efforcer par la fiction de le déranger, de l'interroger, de le faire trembler. Voilà. Et donc, ça sera le mot de la fin.
Merci beaucoup, Lucien Raffemage.